parler de deux actions novatrices qui ont été mises en place par l'ARS Pays de la Loire. La création d'un e-parcours pour la prise en charge des personnes âgées autour du dispositif Maya. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous allons revenir sur ce dispositif. Donc, pour nous en parler, Laurence Brouwez, qui est directrice de l'appui à la transformation et de l'accompagnement à l'ARS Pays de la Loire. Hein, vous allez nous en dévoiler les grandes lignes. Je vais appeler aussi pour une autre initiative. Cette autre initiative, c'est la téléconsultation pour les personnes âgées dépendantes ou désorientées, comme certains malades d'Alzheimer. C'est Jean-François Poirier, qui est directeur de l'EHPAD Notre-Dame de Bon Secours au Pain-en-Mauche, près de Cholet, qui va nous parler du rôle de la télémédecine et qui va nous dire pourquoi la télémédecine est arrivée dans son établissement. Et on aura aussi le docteur Brice Givel qui travaille dans cet EHPAD, mais que nous aurons en visioconférence pour nous parler de son expérience de télémédecine.
Il arrive. Si vous voulez prendre place. Oui,
oui prenez place. Oui.
Vous pouvez introduire. Il va arriver.
Ça va arriver ?
Oui, oui. D'accord. Si vous voulez commencer.
Alors, on va peut-être commencer sur le dispositif Maya, si vous le voulez bien, alors, en attendant le docteur Givel.
Très, très rapidement, si vous me le permettez, bonjour à tous, merci de cette invitation. Et très rapidement, peut-être contextualiser un petit peu et insister surtout sur le moment un peu particulier dans lequel nous sommes. Et ça fait une bonne transition avec l'intervention du docteur Courtemanche, que je remercie. Parce qu'effectivement, on est dans un contexte, après le plan Alzheimer, le plan maladie neurodégénérative, où il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place en faveur du parcours de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Beaucoup de dispositifs, d'ailleurs parfois un peu difficiles de s'y repérer à l'intérieur de ces dispositifs, et d'où l'importance du numérique pour aider parfois à s'y repérer. Ça, c'est un premier point. Et puis le contexte aussi très favorable par rapport au développement du numérique, hein, puisque comme vous le savez, effectivement, on a un contexte de boost, notamment par rapport à la crise Covid, de la pratique de la télémédecine. On a des plans dans le cadre du Ségur qui s'annoncent pour pousser encore les pratiques du numérique. Et je pense qu'on est vraiment dans un contexte extrêmement favorable pour développer toutes ces pratiques. Et puis on est sur une terre innovante, ça a été dit déjà ce matin, en début d'après-midi à plusieurs reprises. Et je crois que tous ces dispositifs déjà mis en place et ces expérimentations vont pouvoir se développer dans ce contexte très favorable. Alors deux mots, et puis je laisserai très très vite la main aux vrais témoins dans la pratique EHPAD. Deux mots sur l'initiative d'ailleurs des pilotes Maya. Puisque je dis elles parce que c'est souvent des femmes, mais il y a parfois des hommes aussi qui tiennent ces postes-là, mais se sont emparés d'un outil régional de e-parcours, hein, qui permet, comme son nom l'indique, de manière dématérialisée, de communiquer entre les professionnels de santé, les professionnels engagés dans le parcours, notamment des malades d'Alzheimer, et de partager tant les diagnostics qui sont sans cesse à mettre à jour, que les projets personnalisés dont on a parlé tout à l'heure, et donc de pouvoir communiquer sur des alertes, Et on sait à quel point c'est utile et que justement le numérique permet et facilite non seulement l'échange, mais la réactivité, l'alerte, et donc favorise la qualité de la prise en charge de la maladie. Donc ça, c'est une première expérience. Et puis, je laisse tout de suite la parole, effectivement, aux vrais acteurs du numérique, que sont effectivement les professionnels de santé dans les établissements et à domicile. Et avec la pratique de la télémédecine, dont on sait qu'elle apporte énormément, comme je l'ai dit tout à l'heure, en réactivité, etc. Mais c'est aussi important de souligner les écueils pour que dans les pratiques à venir, on soit extrêmement vigilant sur ces questions-là. Je voulais souligner aussi le formidable intérêt aussi qu'on a vu particulièrement dans le cadre de la crise récente, des équipes mobiles, hein, de tout ce virage de l'aller vers équipe mobile cognitivo-comportementale, gérontopsie également, qui vont vraiment à domicile, qui vont dans les EHPAD pour soutenir à la fois les malades, les patients et aussi les professionnels de santé. Voilà, je te laisse la parole, Jean-François.
Merci Laurence pour ton invitation. Merci à vous aussi. C'est avec joie que je suis parmi vous pour vous faire part de notre expérience en télémédecine. Alors, effectivement, télémédecine, c'est un vaste monde dans lequel on retrouve plusieurs facettes, une facette télé-expertise et une facette téléconsultation. Donc, mon expérience et l'expérience de l'établissement, c'est bien de la téléconsultation, hein, c'est-à-dire qu'un outil qui permet de mettre en relation des résidents avec un médecin qui est du coup sur un site déporté. Alors, l'EHPAD Notre-Dame de Bon Secours, c'est un EHPAD de 82 lits et places, avec 6 places d'accueil jour, 8 places d'accueil temporaire, et 17 lits pour des personnes avec des troubles cognitifs, dont des personnes atteintes d'Alzheimer. Le projet a été initié fin 2018 grâce à l'ARS, qui est venue vers nous pour nous proposer de mettre en place la téléconsultation dans notre établissement. Il y avait quand même avant tout des prérequis pour pouvoir avoir cet outil. Le premier prérequis, c'était d'être un établissement rural. Alors ça tombe bien, hein, Notre-Dame de Bon Secours, c'est un établissement qui est dans un village de 1400 habitants. Si vous voyez au niveau géographique le triangle Angers, Cholet et Nantes, vous mettez le point au centre du triangle, on est là. Donc vraiment rural. Le deuxième point, c'était d'avoir un médecin coordonnateur impliqué dans le projet. Le docteur Givel, quand je lui en avais parlé, était prêt avec effectivement des réticences, hein, qu'il vous expliquera, mais du coup, il voulait bien y accéder. Et le troisième point, c'était de techniquement, ça puisse être possible. Donc nous, on a dit banco avec l'ARS et du coup, on est rentré dans le projet. Donc une première convention avec l'ARS pour la mise en place du matériel. Cela dépendait d'un appui technique et du coup, l'appui technique a eu lieu avec le GCS E-Santé des Pays de la Loire. Hein, donc deuxième conventionnement avec le GCS E-Santé avec lequel on a travaillé sur le matériel adéquat à notre utilisation. Donc deux solutions se présentaient à nous, soit on était sur un matériel mobile, soit sur un matériel fixe en fonction de l'utilisation qu'on voulait faire. On a préféré prendre un matériel mobile, même si d'un point de vue technique, le Wi-Fi n'était pas partout dans la résidence, mais au moins dans l'avenir, on savait qu'on pouvait déplacer et du coup continuer à mettre l'appareil en allant avec l'appareil vers les résidents et non pas obliger les résidents à aller systématiquement dans la même place pour la téléconsultation. À partir du moment où, au niveau technique, c'était possible, on a commandé le matériel. Bon, tout ça, ça prend du temps, hein, le temps de signer les conventions, le temps que le matériel arrive, qu'on regarde tout le côté technologique. Et on a commencé les premières téléconsultations en janvier 2020. Alors, ça se passe comment ? Ça se passe qu'on est en lien avec Cholet, avec lequel on avait déjà un conventionnement avec leur unité mobile de gérontopsychologie qui venait régulièrement dans notre établissement. On a un agenda, c'est-à-dire qu'on a dans notre calendrier, on a 2 heures par mois dédiées, toujours le même jour dans le mois. Et si une semaine avant, on n'a pas de résident pour leur présenter, on libère le créneau, autrement, on le garde. jusqu'à présent, on n'a jamais eu besoin de libérer le créneau, puisqu'à chaque fois, de toute façon, le créneau était plein au niveau de notre établissement. Ça nécessite d'avoir un infirmier ou une infirmière dédiée, de façon à pouvoir préparer en amont la visio et la téléconsultation, et ensuite préparer derrière, et la présence du médecin coordonnateur. Tout cela se passe donc pour 2 heures en gros de téléconsultation. Il faut compter une demi-heure avant, une demi-heure après, 3 heures de temps infirmier. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Après, on a eu des petits soucis au début, quelques interrogations. La première interrogation, c'était le point de vue technique. Ça a été résolu. La deuxième interrogation, ensuite, c'est purement médical. Mais je vois que le docteur Givelle est
oui,
en ligne.
Le docteur Givelle est là.
Il est là. Donc,
on va lui passer la parole aussi.
Bienvenue. Donc, je vais pouvoir maintenant lui laisser la parole sur du coup comment lui, au quotidien, du coup, il le voit et il utilise l'outil.
Oui, parce que ce sont ses patients. Hein, qui sont en téléconsultation avec un psychiatre, un gérontopsychiatre à Cholet. Est-ce que vous nous entendez, docteur Givelle ?
Oui, très
bien. Ah, alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience de cette téléconsultation de gérontopsychiatrie ? Donc, par exemple, quels sont les patients qui ont besoin de ce type de téléconsultation ? Quels en sont pour vous, sur le plan médical, les avantages et peut-être aussi les inconvénients ?
Alors, les patients concernés, je ne sais pas, tous les patients Alzheimer ou tout cognitif, c'est-à-dire les patients psychiatriques, vieillissants, qui ont quelque chose qui ont déjà suivi, comme disait M. Poirier, avec l'unité mobile de gérontopsychiatrie de Cholet, l'unité avec laquelle on travaille depuis 20 ans, et qui a l'avantage de se déplacer au niveau de l'EHPAD et de rencontrer les gens. Je voulais dire simplement qu'au départ, moi j'étais un petit peu perplexe, un petit peu dubitatif, on va dire, par rapport à une téléconsultation pour notre public, dans la mesure où ce public n'est pas trop avec les écrans. Et en fait, le système est fait de telle façon que la personne est vraiment assise comme si elle consultait, elle voit le médecin psychiatre de l'occurrence en visio en face, comme si elle était assise dans le bureau. Et très clairement, on a eu des très bons retours de la part des résidents qui sont très contents de ce type de prise en charge. D'autre part, il faut bien connaître, même si ça prend un certain temps, comme disait M. Poirier à l'instant, c'est quand même des patients de moins, hein, donc les résidents n'ont pas besoin de se déplacer. Alors, quand on a en plus des moyens d'outils, on n'a pas trop de chemin de déplacement pour toutes les personnes. Donc en fait, à l'usage, on voit une satisfaction de tant des résidents que des équipes, et voilà, il me semble que depuis que j'écoute du spécialiste de l'hôpital de Cholet,
dans le cadre des patients atteints d'une maladie d'Alzheimer, est-ce que vous notez quelque chose de particulier dans ce style de consultation ? Quels sont les avantages particuliers que ces patients peuvent en bénéficier, outre le fait, bien sûr, de ne pas se déplacer ?
C'est très haché. En fait, je rends compte, vous voyez, pour les patients d'Alzheimer, les avantages, je pense que c'est d'éviter un déplacement et un changement d'environnement, si c'est bien la question que vous posez. Et puis le reste, d'avoir la présence de l'infirmière qui est un repère pour le résident et qui permet d'être moins inquiet, je pense, de moins développer de troubles psychocomportementaux, au moins au niveau de la consultation.
Donc ces consultations se passent mieux avec plus de sérénité ?
Je vous
demandais si ces consultations, du fait que ces patients ne se déplacent pas, restent dans leur cadre habituel, soient accompagnés de l'infirmière, est-ce que donc vous notez donc plus de sérénité dans les échanges avec le médecin de Cholet ?
Ben oui, je pense effectivement, c'est un élève détente, du stress, le fait d'être dans ce cadre de vie. Pour l'instant, c'est vrai que comme disait M. Poirier, les téléconsultations ne sont pas encore dans les chambres, puisqu'on a quand même des groupes, nous n'avons pas le début aujourd'hui, mais l'idée, c'est effectivement d'avoir un appareil mobile qui permettrait d'aller dans la chambre du résident. On y est là, actuellement, c'est pas le même rôle, donc je vous parle,
Donc, expérience positive pour vous aussi. Donc, restez en ligne avec nous parce qu'on va peut-être vous poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez envie de poser à un des trois intervenants présents sur la scène et par visioconférence? Tout à l'heure, vous nous aviez parlé de doutes que vous aviez sur les réseaux, sur ces petits aspects techniques. Hein. On sait ce que c'est que des pannes de réseau, Internet, tout le monde en fait l'expérience. Est-ce que vous pensez que n'importe quel EHPAD en milieu rural est assez équipé? Est-ce qu'il va falloir attendre la 5G pour bénéficier de ces téléconsultations, ou c'est possible pour tout le monde?
Alors, effectivement, ça a été notre première inquiétude, puisque au Pin en Mauges, même la 4G ne passe pas, déjà, et on n'a pas la fibre. Donc, est-ce qu'un outil avec une caméra haute définition allait fonctionner correctement chez nous avec Cholet? Oui, ça a été une inquiétude. Mais en fait, non. Une ligne ADSL professionnelle classique dédiée suffit pour avoir une bonne communication. Le souci technique qu'on a aujourd'hui, et on attend la fibre avec impatience, c'est plutôt pour pouvoir augmenter la possibilité du Wi-Fi au sein de l'établissement, de façon à pouvoir bien déplacer le chariot dans les chambres. Alors, la fibre arrive début 2021, donc c'est bien. Donc je pense que l'année prochaine, on pourra dire que le chariot est vraiment mobile.
Laurence Brouwez, est-ce que vous pensez que dans votre région, vous allez donner une impulsion pour qu'il y ait plus de télémédecine, notamment dans les EHPAD comme ça, où on reçoit des patients Alzheimer? Parce qu'on voit que c'est quand même positif pour eux de ne pas se déplacer, de rester dans leur environnement, de ne pas avoir peur de sortir, de ne pas avoir peur de l'inconnu.
Oui, très clairement, on est complètement engagé dans le déploiement de la télémédecine et en priorité dans les établissements médico-sociaux, avec d'autres partenaires que sont la région d'ailleurs, hein, qui accompagne aussi ce mouvement, les départements. Donc on va aller, comme ça a été dit tout à l'heure, on va continuer ce déploiement territorial qu'on a voulu d'abord cibler sur les zones les plus éloignées, en quelque sorte les zones rurales, et qui ont parfois le plus de difficultés à obtenir des consultations. Donc on va continuer cet effort démultiplié, je le disais tout à l'heure, parce qu'on va avoir davantage de moyens, hein, par notamment le Ségur, etc., qui annonce d'ores et déjà des moyens très importants. Donc oui, on est vraiment convaincus de cette démarche. Et au-delà de la télémédecine, hein, je le disais tout à l'heure, sur le e-parcours, et franchement, tous les témoignages qu'il y a aujourd'hui le disent, hein, c'est-à-dire qu'il faut aussi que ces parcours soient... coordonnées par des moyens numériques qui facilitent le travail pluriprofessionnel.
D'ailleurs, il y a une question là, qui vient de m'arriver sur les e-parcours. Hein. On vous demande justement d'en parler un petit peu plus, de développer davantage. Qu'est-ce que c'est? Est-ce aussi pour les personnes vivant à domicile? Est-ce mis en place uniquement pour les personnes suivies en gestion de Kamaya? Donc, d'accord.
Tout à fait. Pour l'instant, c'est vraiment un outil que se sont appropriés les gestionnaires de Kamaya. Donc, c'est à destination, bien évidemment, des personnes à domicile également, hein, puisque c'est de la gestion de ce qu'on appelle cas complexes, par définition. Mais je pense que toutes les situations Alzheimer sont complexes à un moment donné. Donc, l'objectif, c'est vraiment... de pouvoir, au travers du e-parcours, avoir un outil qui sert non seulement aux gestionnaires de cas complexes, mais également aux professionnels de santé au sens large. Et on n'est pas du tout encore au rendez-vous. On a vraiment un long chemin à parcourir sur l'appropriation de ces outils de e-parcours, hein, puisque effectivement c'est une sorte de plateforme, hein, où chacun va venir déposer de l'information sur le parcours et où chacun va pouvoir accéder à l'information qui le concerne, puisqu'on est toujours évidemment dans le secret médical et puis de chaque type d'information, où également on a Il y a déjà des expériences, tout à l'heure il en était question aussi, où on va permettre aussi aux aidants d'accéder à un certain type d'informations par le biais de portails, etc. Donc des informations de type général, mais aussi qui ont trait directement au parcours du résident ou de l'usager, etc., ou de la personne malade. Donc oui, on est vraiment très mobilisés sur ces champs-là, et encore une fois, la région porte des projets spécifiques, innovants, et je pense qu'en 2021, si on n'est pas à nouveau rattrapé par une crise trop importante, mais on va pouvoir pousser vraiment des projets extrêmement intéressants.
Je vais demander au docteur Givel, qui est encore avec nous, encore une petite question sur ces téléconsultations. Donc vous connaissez les patients, bien sûr, vous préparez leur dossier. Est-ce que vous avez des retours du médecin gérontopsychiatre de Cholet sur cette expérience de télémédecine ?
Oui, tout à fait. Le docteur Perrodin est un fervent partisan de ce type de téléconsultation. Bon, on n'est pas très éloigné de Cholet, mais malgré tout, ça a coûté 40 à 50 minutes de trajet aller-retour s'il faut venir au niveau de l'EHPAD. D'une heure en gros, et c'est un réel temps pour lui, et qui nous permet de la tension qui peut exister au niveau du fil actif et de des hôpitaux généraux, ça nous permet effectivement de gagner du temps et de voir des résidents sans déplacement. Et moi, son retour est effectivement très positif. Hein. Si on passe l'établissement des réalités,
donc, bénéfice de ces téléconsultations, mais est-ce qu'il y a quand même des cas particuliers avec des patients atteints de la maladie d'Alzheimer où le présentiel est quand même nécessaire ?
Le présentiel, à la limite, est assuré par la première présence. Vous êtes formé, la troisième formée, et qui est en fait, je dirais, d'un contact humain et physique qui peut rassurer effectivement le patient tout comme le physique. Et donc, je pense que c'est le côté humain qui permet d'utiliser cette
télémédecine. J'ai une petite question là qui vient de m'arriver. J'ai vécu une visioconsultation, le médecin avec mon épouse. Je suis OK sur l'aspect efficacité, mais réservé sur le fond, on ne remplacera jamais le contact réel. Qu'en pensez-vous ? Donc, une question d'une personne qui nous dit qu'elle a assisté à une téléconsultation entre son épouse et le médecin, mais est-ce qu'au fond... on ne remplace jamais le contact réel. Est-ce qu'on perd quelque chose dans une téléconsultation, ce côté d'échange humain? Est-ce qu'il est perdu dans la téléconsultation?
Je pense que tout ne passera pas en téléconsultation. Ça peut être un moyen, par exemple, de faire un téléphone trimestriel, une mensuelle, une situation. Effectivement, moi, je suis généraliste par ailleurs, le contact personnel est essentiel. Quand je suis aussi dans l'organisation, vous savez, depuis une dizaine d'années, je fais déjà la téléconsultation depuis 12 ans. Donc c'est vrai que bon, c'est une forme aussi d'approche des pathologies ou des plaintes de patients qui donnent quand même pas mal de satisfaction. On arrive à résoudre. C'est toutes les questions de formation et d'entraînement et de connaissance, parce que effectivement, je ne vais peut-être pas donner le jour maintenant. Mais là, maintenant, on a quand même une grande formation de la télé-expertise, de téléconsultation, pour la communauté, la télé-santé. Et je pense que ce n'est pas, c'est toujours, il ne faut pas penser que ce n'est pas les seuls, la seule façon d'envisager le soin, mais par contre, en complément, ça peut être effectivement une très bonne solution. Comme par exemple, quand on va rejoindre bientôt la télé-expertise dans la pathologie, il faut bien reconnaître que. Les spécialistes sont loin et sont rares.
Est-ce que avec le coronavirus, de toute façon, la téléconsultation, surtout pour des personnes âgées, ne va pas s'imposer? Est-ce qu'elle ne doit pas se renforcer même actuellement?
Alors, effectivement, le coronavirus a permis une... explosion, non, c'est pas le terme, mais tout du moins l'arrivée massive des écrans au sein des EHPAD, puisque en dehors de la téléconsultation, il y a eu, du fait du confinement, tout ce qui a été mis en place par les logiciels simples comme Skype, de façon à ce que les résidents puissent être en communication et en lien avec leur famille. Et c'est vrai que, pour l'avoir mis en place aussi au sein de l'établissement, il nous a fallu pratiquement trois ordinateurs dédiés sur la consultation en Skype qui étaient pris de 10h le matin à 18h le soir. Ce qui veut dire que les personnes âgées aujourd'hui sont vraiment rentrées dans l'utilisation et l'habitude d'avoir à communiquer face à un écran, et on l'a utilisé par Skype, du coup, pas en téléconsultation, mais de façon à mettre en relation les personnes de l'unité Alzheimer avec leur famille. Ça leur a permis vraiment d'avoir un contact quotidien pour certains, parce que c'était nécessaire. Donc oui, c'est effectivement, pour moi, c'est l'avenir. Et puis le Covid a montré que, justement, heureusement qu'on avait cet outil-là dans la période de confinement.
Alors, une dernière petite question, plus une réflexion pour Laurence Brouwez. On me dit qu'il faut préciser que les Mayas ne sont pas accessibles au public. Cela passe par l'orientation de professionnels. Donc, qui peut orienter, qui décide?
Tout à fait. Les pilotes Mayas sont... Enfin, la méthode est destinée aux professionnels de santé pour leur permettre de faciliter le parcours, le gestionnaire de cas complexes. Pardon.
Ah oui,
les pilotes Maya et les dispositifs Maya sont destinés d'abord aux professionnels de santé. Effectivement, il y a souvent eu cette ambiguïté entre les Maya et les CLIC, qui sont eux à destination vraiment de l'usager. Tout à fait. J'en profite, j'ai la parole pour compléter un tout petit peu et rebondir sur les propos du docteur Jival. Je pense que la téléconsultation, la télémédecine n'a pas vocation à remplacer le contact direct avec le professionnel de santé. Et c'est effectivement, il faut trouver les niches dans lesquelles la télémédecine et la téléconsultation est adaptée, répond aux besoins, mais il ne le remplacera pas. Néanmoins, dans une période de crise, puisque c'était votre question, ça devient quand même un outil de substitution qui, Dieu merci, a permis de garder le contact dans le cadre de la prise en charge des personnes Alzheimer, mais beaucoup plus globalement dans le cadre de suivi de tout un tas de patients dont on sait malheureusement que la crise Covid a aussi différé des prises en charge ou des choses comme ça. Donc c'est une préoccupation, c'est quand même un outil qui nous sauve un peu la mise actuellement, mais qui ne remplacera jamais la relation directe avec le professionnel de santé.
Merci beaucoup Laurence Brouwez, merci Jean-François Poirier, merci docteur Jival de nous avoir parlé de ces innovations qui concernent les malades et leurs familles.